Chaque année, le 24 janvier, les Nations Unies et l'UNESCO célèbrent la Journée internationale de l'éducation. Comme tous les ans, un thème a été choisi. Cette année, le thème retenu est « Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération Covid-19 ».
Pour en savoir plus sur cette journée, nous sommes par téléphone avec Madame Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation. Bonjour Madame Giannini.
Bonjour.
Sur la page des Nations Unies concernant l'objectif de développement durable numéro 4, nous apprenons ceci. En 2020, alors que la pandémie de la Covid-19 se propageait dans le monde entier, une majorité de pays a imposé la fermeture temporaire des écoles. Plus de 91% des élèves dans le monde ont été concernés. Cette fermeture des écoles a de nouveau lieu dans certains pays en 2021. Quelles ont été les conséquences de ces fermetures d'écoles pour l'éducation et pour les enfants?
Voilà, mais merci Adrien pour cette question. Comme vous avez dit, cette pandémie a changé beaucoup de choses, a changé aussi les systèmes éducatifs au niveau global, qui ont été bouleversés, on peut dire, du jour au lendemain. Peut-être vous connaissez les chiffres, je vais les mentionner. Au pic de la pandémie, c'est-à-dire en avril dernier, ce sont 6 milliards d'élèves dans le monde entier qui ont été affectés par la fermeture des écoles, des collèges, des universités, etc. Et cette situation ici est tout simplement sans précédent dans l'histoire. Quelle est la conséquence la plus grave? Moi, je pense que, comme on a dit, et ici à l'UNESCO, depuis le début de la crise, la conséquence la plus grave est la montée des inégalités. Pourquoi? Parce que les étudiants ne sont évidemment pas égaux face à l'éducation à distance. On estime, pour exemple, aujourd'hui que près de 100 millions d'étudiants n'ont pas pu accéder à ces solutions d'apprentissage alternatives qui sont devenues, comme vous savez très bien ici en France aussi, la normalité, non? La nouvelle normalité. Et en moyenne, globalement, tous les étudiants au niveau global sont restés 60 jours sans apprentissage, c'est-à-dire séparés du parcours régulier. Et voilà, c'est une conséquence épocale. Et c'est une situation qui a montré un autre côté, une autre dimension de l'école que je voudrais souligner ici, c'est-à-dire que l'école est bien plus qu'un lieu d'apprentissage. La technologie ne remplace pas tout l'interaction humaine, sociale, ni l'enseignant même, non? Les rôles, la figure concrète de l'enseignant. Et de plus, pour beaucoup des étudiants, l'école offre aussi un espace de nutrition, de protection sociale, d'accès à la santé. Je pense surtout aux pays en cours de développement, au sud du monde, mais aussi on a des situations ici en Europe qu'on peut classifier comme ça. Et enfin, je voudrais souligner aussi des côtés positifs, non? Toutes les crises peuvent nous donner des éléments de positivité. Et dans ce contexte, cette expérience inédite, on a vu une accélération d'innovation, une accélération d'expérimentation. Et on a vu une mobilisation qui a vraiment donné des opportunités nouvelles, je pense, pour changer les moyens d'apprentissage et aussi d'enseignement.
Est-ce que les conséquences de la Covid-19 sont les mêmes partout dans le monde?
Non. Je pense que, comme vous savez, partout, les élèves les plus vulnérables, les plus marginalisés sont les plus concernés. Sont les plus concernés par les risques de perdition scolaire et sont les plus concernés pour rester derrière, non? Ils sont déjà arrière avant cette crise et les risques qu'on a concrètement dans beaucoup de contextes d'avoir les plus fragiles derrière. Pour exemple, nous estimons ici à l'UNESCO qu'aujourd'hui, presque 24 millions d'enfants ne reprendront pas le chemin des études cette année à cause de l'impact économique du COVID. Et naturellement, le pourcentage plus haut de ces chiffres serait dans le sud du monde, surtout en Afrique, surtout dans le sud-est asiatique. Et nous savons, par exemple, par des crises sanitaires précédentes comme l'Ebola, que les filles sont plus exposées lors des fermetures des écoles, sont plus exposées à la violence, sont plus exposées aux grossesses et mariages précoces, surtout, encore une fois, dans le sud du monde. Et voilà, il faut vraiment envisager ces crises comme une crise globale, mais qui n'affecte pas tous et toutes au même niveau.
Est-ce que l'éducation a changé du fait de la Covid-19?
Bien sûr. J'imagine que vous pouvez dire les mêmes, non? J'imagine que vous avez été affecté comme les étudiants ici en France par ce confinement. Vous avez dû vous adapter, je pense, très rapidement à des nouveaux systèmes, de nouvelles façons d'apprendre, des nouveaux systèmes de scolarisation, on peut dire, non? Et l'éducation n'était pas préparée à ces changements rapides. C'était un choc pour tous. Et il faut aujourd'hui, maintenant, tirer des leçons de cette expérience. Tirer des leçons en termes de moyennes, des modèles nouveaux, par exemple les modèles hybrides ou à distance que la pandémie a enfatisé comme des moyens importants, nécessaires, mais aussi des autres dimensions que je voudrais souligner. Aujourd'hui, la priorité absolue doit être la réouverture des écoles. Et naturellement, on m'entend, prend toutes les précautions pour qu'elle puisse rester ouverte. Mais je pense aussi que l'éducation sera durablement affectée dans les courts termes, dans les prochains mois et années, en termes de programmes pour évaluer, rattraper les retards et assurer que chaque enfant vraiment retrouve le chemin d'école. Mais au-delà de cela, je pense que la pandémie a démontré aussi l'importance capitale, l'importance cruciale de l'école pour la société en général. Et alors, c'est notre devoir, surtout des organisations internationales comme l'UNESCO, de protéger l'éducation comme bien public. Et elle a montré aussi l'importance de la dimension socio-émotionnelle, de l'apprentissage. La technologie, très importante, elle a assuré, non, la continuité d'apprentissage et d'enseignement, mais c'est pas tout. Et alors, il faut mieux intégrer dans les pédagogies des systèmes hybrides. Et cette crise a montré l'engagement extraordinaire des enseignants. Il a remis, je pense, les enseignants au centre du processus et il est essentiel pour nous d'investir dans la formation des enseignants, d'impliquer dans toutes les décisions les enseignants. Et voilà, ils sont des changements du système qui, j'espère et je pense, peut nous donner aussi des éléments positifs, pas seulement les côtés négatifs qui a été les premières en part.
Y a-t-il un risque de ne pas atteindre l'ODD-4 à cause de la Covid-19?
C'était un risque déjà avant cette crise, il faut le dire. Mais aujourd'hui, les fermetures d'écoles que j'ai rappelées risquent naturellement d'effacer des décennies de progrès, non, qui a été déjà fait. Nous étions déjà confrontés à une crise d'apprentissage. Nous avons déjà des millions d'enfants et de jeunes exclus de l'éducation. Mais aujourd'hui, la mission qu'on a, on le peut résumer comme ça. Il faut qu'ils nous engagent tout ensemble pour n'aggraver les risques d'avoir une catastrophe générationnelle. C'est le langage que le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a utilisé l'été passé. Et c'est le langage, c'est le message que lors d'une réunion mondiale que l'UNESCO a organisée en octobre dernier, plus que 15 chefs d'État et des gouvernements et des ministres aussi, plus que 80 ministres, se sont mis d'accord sur quatre priorités pour relancer les secteurs de l'éducation comme bien public, comme j'ai déjà dit, et pour remettre en marche l'éducation. Je les mentionne brièvement, la réouverture des écoles, les soutiens massifs aux enseignants, les investissements dans les compétences pour l'avenir, pour vous, pour les jeunes, pour la jeunesse et pour la lutte, les combats contre le chômage et la réduction du fossé numérique. Et voilà, pour les faire toutes ces choses ici, ces plans de relance doivent être soutenus par des financements. Et le gouvernement doit vraiment protéger les budgets pour l'éducation.
Sur le site des Nations Unies, nous apprenons qu'en mars 2020, soucieuse d'assurer le bien-être des enfants ainsi que la continuité de l'apprentissage, l'UNESCO a lancé une coalition mondiale pour l'éducation. Qui fait partie de cette coalition mondiale et à quoi sert-elle?
Aujourd'hui, nous fédérons plus de 150 partenaires, pas seulement les agences des Nations Unies, qui sont des partenaires stables, on peut dire, mais notamment du secteur privé, de la société civile, les universités, les organismes régionaux. C'est-à-dire, on a mis en œuvre, comment on peut dire, un système agile, non, une modalité de start-up, si on peut dire comme ça, qui avait et aujourd'hui encore a la mission opérationnelle et pragmatique de donner des réponses concrètes, des mesures concrètes au gouvernement, au tout le monde et adapter les systèmes éducatifs à chaque situation locale. Nous travaillons dans plus de 70 pays aujourd'hui pour atteindre plus que 400 millions d'étudiants et presque 15 millions des enseignants. C'est une grande mission, c'est pas facile naturellement, c'est un défi, mais on a des résultats déjà concrets. Je peux mentionner l'Afrique francophone, mais aussi je peux mentionner l'Amérique latine. Voilà, nous sommes au soutien des communautés éducatives et des gouvernements au niveau global pour assurer que chaque enfant peut vraiment avoir l'accès à l'éducation, c'est-à-dire avoir les droits à l'éducation concrètement réalisés.
Un événement pour la Journée internationale de l'éducation aura lieu le lundi 25 janvier à New York. Pouvez-vous nous parler de cette journée?
Oui, c'est une journée très spéciale. C'est la dernière édition qu'on fait. Et comme vous avez dit au début de cette conversation qu'on a aujourd'hui, le thème cette année est relancer et redynamiser l'éducation, bien sûr. En termes de crise globale, il faut trouver des éléments de relancement. C'est-à-dire qu'il doit se faire ce relancement autour des principes qui sont au cœur de l'objectif 4, naturellement, bien sûr, l'inclusion, l'équité, la qualité et aussi l'opportunité d'apprendre tout au long de la vie. Ils sont des objectifs qui nous avions déjà avant les COVID, mais ils sont des objectifs qui aujourd'hui doivent devenir les outils dans les mains des pays, des gouvernements, pour laisser les faire les choix plus justes. Ces journées honoreront des personnes qui ont soutenu la continuité pédagogique pendant la pandémie, des étudiants, des enseignants exemplaires. Il faut vraiment montrer la face concrète, non, de la communauté en marche. Et il mettra en avant des acteurs d'innovation du public et du privé. Et la mission qu'on a à travers la journée est de lancer aussi un plaidoyer pour un financement stable et ciblé pour l'éducation, comme déjà dit. L'événement en ligne des 3 heures est ouvert à tous, à toutes, au public. Nous sommes très heureuses de vous accueillir et nous l'organisons en collaboration avec les Nations Unies à New York, les partenariats mondiaux pour l'éducation et les festivals de l'apprentissage ici à Paris.
Pourquoi cet événement a-t-il lieu à New York?
Parce que on a pensé cette année qu'il faut vraiment profiter des formats hybrides, c'est-à-dire on aura des petits groupes ici à l'UNESCO, on aura des petits groupes en présence, je veux dire, chez les centres pour la recherche interdisciplinaire ici à Paris, dans les 9e arrondissement, mais on aura aussi à New York, qui est le quartier général des Nations Unies, la représentance des plus hauts niveaux du système des Nations Unies pour donner le message que l'éducation est vraiment une priorité absolue au niveau international pour nous.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous, au revoir et une très bonne année à vous tous.